vous suit.
Voici les titres du journal.
Une meilleure prise en compte de la pénibilité du travail de nuit et en équipe, des améliorations en matière de conciliation, vie familiale, vie professionnelle, la nouvelle convention collective de travail de Syngenta, montée, entrera en vigueur le 1er juin. Nous recevrons le directeur du site dans quelques instants. Il faut briser le tabou de la parentalité des personnes en situation de handicap. Dans cet esprit, un séminaire est organisé ce soir et demain à Saint-Légier. Une chasse au trésor est organisée, elle, aux mines de sel de baie pour la Fête de la nature. Demain, elle sera accompagnée de spécialistes en biodiversité. En course à pied, la cinquième étape s'est tenue à Aigle hier soir sous une chaleur estivale. On parle bien sûr du Tour du Chablais. Et en basket, Vevey doit encore patienter avant de valider sa promotion dans l'élite.
Un temps orageux nous est annoncé cet après-midi par Météo Suisse. Et demain, un temps ensoleillé et très chaud. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Alexandra Claude. Bonjour Alexandra.
Bonjour. Je vous le disais en titre, la convention collective de travail de Syngenta à Monté a été renouvelée pour 5 ans. Elle entrera en vigueur le 1er juin. Un accord a donc été trouvé entre la délégation des syndicats et la délégation patronale. Délégation patronale dont vous faites partie, Christian Spüller. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur de Syngenta Monté. Vous avez participé activement, bien sûr, aux négociations. Alors, vous dites que cette CCT est reconnue par les syndicats comme un accord innovant qui prend particulièrement en compte la pénibilité du travail de nuit et en équipe. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de mesures de ce type ?
Alors, dans un contexte où l'usine produit et exporte, et en concurrence avec des génériques, effectivement, nous avons porté un point particulier à l'attention par rapport au travail de nuit que nous devons porter aussi à certains de nos ouvriers qui ont parfois des difficultés, notamment en fin de carrière, et pour lesquels il est important qu'on puisse trouver des solutions, d'aménager de façon flexible les conditions de travail, et notamment à partir de 7 ans avant l'âge légal de la retraite, nous allons réduire d'un point de pourcentage par année, plafonner à 5% le taux d'activité en payant les salaires à 100% pour ces personnes-là.
Le but étant d'arriver à la retraite en bonne santé et pas, en n'étant pas trop fatigué, c'est ça ?
Oui, je pense qu'on s'inscrit dans une vision à long terme pour continuer à produire en site, sur le site et en Suisse dans une concurrence mondiale. Les conditions cadres sont absolument importantes. Le partenariat social est une de ces conditions cadres. Donc, nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu trouver un accord avec la délégation syndicale. Et le fait de reconnaître cet élément de prise en compte de l'aménagement nécessaire de la flexibilité du travail dans la CCT est aussi finalement le fruit d'un long travail que nous avons fait en commun avec la représentation interne du personnel pendant toutes ces dernières années.
Cette nouvelle CCT comprend aussi des améliorations, je l'ai dit, au niveau de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis elle prévoit l'octroi d'une prime projet pour, vous dites, compenser la diminution de la prime d'équipe. Qu'est-ce que cette prime projet ?
C'est une autre particularité dont nous sommes aussi fiers et heureux de pouvoir disposer à Monté. C'est la compétence technique et la connaissance des installations de la part d'un grand nombre de nos ouvriers qui, dans un contexte où nous avons également la chance d'avoir un grand nombre de projets d'investissement, 70 à 80 millions de francs par année dans nos installations, fait qu'en complément des ingénieurs que nous engageons et des bureaux externes, fréquemment, nous faisons appel à des ouvriers en les faisant passer d'équipe à un travail de jour pendant une période transitoire pour aider et participer à la mise en place de ces projets d'augmentation de capacité. Et aujourd'hui, nous reconnaissons au niveau conventionnel le fait que ce travail temporaire et la mise en valeur de ces compétences doivent aussi être reconnues avec une prime mensuelle forfaitaire qui sera augmentée et versée à chacun des ouvriers dans cette situation-là.
Christian Spüller, il a fallu 7 séances de négociation avec les syndicats UNIA et SINA. Est-ce qu'il faut en déduire que les discussions ont été compliquées ?
Sans trahir le secret des négociations, nous sommes extrêmement heureux que, in fine, nous arrivons à une situation où les éléments de convergence sont vraiment liés à la défense du site, dans un contexte où ça fait exactement 125 ans qu'on fait de la chimie à Monté, et que tous les éléments, je dirais, plus politiques sont laissés finalement au débat politique dans les collectivités publiques, et n'ont pas été inclus dans cette convention collective de travail. Donc nous sommes extrêmement heureux de ça. J'aimerais aussi ajouter qu'avec le délai d'éducation syndicale, nous avons clairement communiqué notre intention de pouvoir promouvoir plus la possibilité pour les femmes de travailler également de nuit en régime posté. Ça passe par la promotion du métier, ça passe par des aménagements dont pour le moment nous n'avons pas encore exactement les solutions, mais nous allons ensemble avec la représentation interne du personnel, nous engageons aussi à faire en sorte que l'on puisse augmenter le nombre d'opératrices ouvrières de production sur notre site dans les prochaines années.
Bien, merci beaucoup Christian Spuller d'avoir été avec nous, directeur de Syngenta Montée. Et ce soir dans l'émission 17h L'Actu, Florian Barbet recevra Blaise Caron du syndicat UNIA pour parler à nouveau de cette CCT. Merci et bonne journée.
Merci.
Et si l'on parlait du droit à la parentalité des personnes en situation de handicap ?
Eh bien, afin de répondre à cette question, un séminaire est organisé ce soir et demain à la Cité du Genévrier à Saint-Légier, au programme des films, des conférences, mais aussi des ateliers afin de briser les tabous autour du fait de devenir parent, mais aussi de tout ce qui entoure ce thème-là, thème qui revient régulièrement au sein de l'institution socio-éducative qui accompagne des personnes en situation de handicap. Gisèle Holmy, responsable du groupe ressources intitulé Amour au quotidien au sein de la Fondation Ebenezer.
C'est un questionnement qu'on reçoit quand même régulièrement de la part des résidents. Et puis, ça nous questionne, ils nous questionnent sur le sujet, ils se questionnent sur le sujet. Et forcément, ce n'est pas une thématique qui est simple à aborder pour différentes raisons qu'on peut comprendre. Et nous, il nous semblait très très important d'avoir en tout cas une journée de réflexion en invitant un maximum de personnes qui sont concernées par cette problématique, par cette thématique, et qui sont des personnes spécialisées, entre guillemets, au niveau de l'éthique, sociologique, médicale.
Des propos recueillis par Léa Journeau. La commune d'Aigle a présenté hier des comptes 2021 équilibrés avec un excédent d'un peu plus de 50 000 francs sur un ensemble de dépenses d'un peu plus de 50 millions. La municipalité se dit satisfaite de son exercice. La marge d'autofinancement s'établit à 6,1 millions de francs, un résultat supérieur aux prévisions.
Un programme de législature en trois lignes directrices.
Voilà ce qu'a présenté hier à Puy la conférence des directeurs des polices communales vaudoises. Principal élément de ce programme 2021-2026, dessiner l'avenir dans le cadre de la police coordonnée en partenariat avec la police cantonale. Comprenez, accentuer notamment les synergies dans un souci d'efficience et d'efficacité. Un discours qui ne date pas d'hier. Yves Terrani l'a fait observer à Dan-Henri Weber, vice-président de la société des officiers des polices communales vaudoises.
Durant ces deux dernières années, la pandémie a obligé en fait les corps de police à mieux collaborer. Et depuis, il y a une réelle évolution, une réelle volonté entre les différents corps de police de travailler ensemble pour la police de demain.
Elle se traduit comment alors cette réelle volonté ?
Sous l'égide de la police cantonale, on a mis en place une gouvernance qui regroupe l'ensemble des cadres des polices vaudoises, donc la police cantonale et puis les polices communales. Donc les décisions se prennent de façon commune. Il y a une meilleure collaboration aussi entre les unités d'intervention, entre la gendarmerie et les polices communales, ainsi que les changements au niveau technique et logistique. Maintenant, on voit qu'au niveau des centrales, c'est unifié et puis il y a un partage des informations qui se fait beaucoup plus facilement qu'avant.
Cela peut paraître très bien, mais ne faudrait-il pas dès lors remettre sur le tapis la question de la police vaudoise unique, un projet rejeté, on s'en souvient, par le peuple vaudois en 2009. La réponse de Jean-Marc Chevalat, président de la conférence des directeurs des polices communales vaudoises, ne laisse pas de place au doute.
Non, on est convaincu que ce n'est pas le cas. Nous avons des communes, il y a une loi sur l'organisation policière qui répartit les tâches entre le canton et les communes. Et au niveau, on va dire, l'échelon le plus bas avec la relation directe avec la population fait que les communes sont le plus à même de répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens.
La facture policière, justement, elle inclut un effet péréquatif sur son calcul. Pour vous, c'est plus défendable ?
Non, le principe de la péréquation, c'est quelque chose qu'on comprend et qui est tout à fait normal. Par contre, les éléments qu'on met à l'intérieur de ce calcul-là ne sont plus défendables puisqu'il y a des coûts qui doivent être pris en charge soit par le canton, soit par les communes qui demandent des prestations.
Vous avez des exemples ?
Non, parce que c'est des éléments qui ont été bloqués au niveau du Conseil d'État et les détails ne peuvent pour l'instant pas être mis sur la table.
Le canton de Vaud compte 9 corps de police communale, regroupant quelques 1000 policiers pour assurer la protection sécuritaire d'environ 480 000 âmes.
Pour la première fois, les mines de sel de baie s'associent à la Fête de la Nature.
C'est la 11e édition de la Fête de la Nature, mais une première donc pour le site des mines de sel. Demain, les curieux auront la possibilité de découvrir la faune et la flore en compagnie de spécialistes de la biodiversité. Une occasion de découvrir ce que l'on ne voit pas forcément lorsque l'on se rend aux mines. Mona Heiniger, marketing manager au Saline Suisse.
Il y aura par exemple des reptiles, ce genre d'animaux, des animaux qui sont plus liés à la forêt ou alors à la rivière, parce que c'est vrai qu'on est un peu entre les deux. Donc de la flore aussi d'un peu ces deux régions, pas mal d'oiseaux. Particulièrement, je pense, les chauves-souris, qu'on a aussi beaucoup moins l'occasion de les observer.
Chaque année, les Salines de Baie organisent des actions afin de valoriser la nature. Les collaborateurs sont invités par exemple à construire des hôtels à insectes, à planter des essences locales ou encore à semer des prairies fleuries. Par ailleurs, les Salines Suisses ont également un fonds pour la nature, le fonds Salzgut. On retrouve Mona Heiniger.
On reverse 1 franc par tonne de sel extraite pour que des associations de protection de la nature, des communes ou d'autres associations qui ont des projets de durabilité peuvent nous soumettre un projet en fait et on les soutient via ce fonds.
Rappelons que la Fête de la Nature a lieu jusqu'au 22 mai et que de nombreuses communes de la région y participent. Un sujet de Martine Wüstiner. L'informatique doit devenir une branche fondamentale dans tous les gymnases. Cette recommandation émane du Conseil suisse de la science. Elle est motivée par la transformation numérique de notre société et des nouveaux défis qu'elle pose à la formation scolaire. Le CSS précise que l'enseignement de l'informatique doit être diversifié et qu'il est important de ne pas surcharger les plans d'études. Sabine Sustrunk, présidente du CCS.
Maintenant, notre société est tellement en train de changer, justement, vers une industrie 4.0, société 4.0. C'est la transformation numérique et partout. Et l'informatique devrait être devenue une base. Et c'est pas de faire des programmateurs ou des programmatrices, c'est tout le monde, en fait. Mais qu'on comprend fondamentalement ce que l'informatique peut et ne peut pas faire, parce qu'il touche des choses qu'il ne peut pas faire. Et en fait, cet raisonnement, ça va être une branche d'un petit peu de science, hein, comme la mathématique, la physique, l'informatique, mais je suis assez convaincue que ça ne va pas poser plus de problèmes à nos élèves que les autres cours. C'est vraiment aussi dans les autres cours de se rendre compte du numérique qu'on pourrait justement aussi avancer la connaissance des écoliers et écolières dans le numérique. Donc, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre dans un cours d'histoire, en fait, et qu'on parlait du numérique. En fait, c'est fascinant, en fait, l'histoire du numérique.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami. La route du col de la Fourca qui relie le Valais au canton d'Oury sera rouverte plus tôt que prévu cette année. À la suite de sa fermeture hivernale, elle sera à nouveau pleinement accessible à partir de mercredi prochain dès 17h. Cette réouverture intervient 3 semaines plus tôt que d'habitude. Actuellement, la route n'est ouverte que jusqu'au lieu dit Tiefenbach côté Uranais. Elle est entièrement fermée côté Valaisan. Et notez que le Gothard, quant à lui, rouvre demain dès 16h. À l'étranger, la Russie veut couper l'Ukraine de sa centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe occupée par l'armée russe, à moins que Kiev ne paye Moscou pour l'électricité produite, a indiqué le vice-premier ministre russe. Cette déclaration rejoint celle d'autres responsables russes ces dernières semaines qui laissent entendre que la Russie prépare une occupation durable, voire une annexion des zones du sud de l'Ukraine qu'elle contrôle. En course à pied, la 5e étape du Tour du Chablais a souri à Alexandre Jeudidio hier soir à Aigle. Déjà vainqueur il y a une semaine à Morgin, l'athlète du CABV Martini a une nouvelle fois dominé les débats. Il a bouclé le tracé de 8,2 km en 26 minutes et 11 secondes, soit 9 secondes de mieux que le résident de Roche, Abom Amaniel. À chaud, écoutez la réaction d'Alexandre Jeudidio.
Ouais, il faisait super chaud. D'ailleurs, bravo à tous les participants. Et puis, j'ai bien aimé le parcours. C'était vraiment très varié. C'était sympa d'être un peu à l'ombre là dans la forêt. Et je pense que c'est une des plus belles étapes du Tour du Chablais. Donc, bravo à Aigle et bravo à tous les bénévoles.
Chez les dames, la victoire n'est pas revenue à Anne-Lise Métraillé. Invaincue jusqu'ici, la Valaisanne a cette fois dû se contenter de la deuxième place. Elle a été battue par l'athlète établie à Vevey, Loane Duvoisin, qui a triomphé en 31 minutes et 19 secondes. On l'écoute.
Super étape, le parcours était vraiment joli, assez vallonné. Et la météo était avec nous, donc c'était super chouette.
La météo avec vous, mais il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Mais vous me le disiez, a priori, ça vous gêne moins que le froid.
Ouais, alors je supporte pas trop le froid, donc pour moi, la chaleur, je supporte plutôt bien.
Gagner sur cette étape du Tour du Chablais, c'était un peu l'objectif en venant ici à Aigle, c'est secondaire.
C'est sûr qu'on vient toujours à une course pour gagner dans l'idée, mais après c'était une course de préparation, mais c'est vrai que le résultat il est plutôt encourageant pour la suite.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Au classement général chez les hommes, Maël Boren reste toutefois, malgré sa sixième place lors de l'étape Aiglon, en tête. Chez les dames, c'est toujours Anne-Lise Métraillé qui est en tête. Hockey sur glace, la Suisse reçut 4 sur 4 au championnat du monde d'Helsinki. Dans le groupe A, les joueurs de Patrick Fischer ont en effet remporté hier soir leur quatrième rencontre consécutive dans ces mondiaux face à la Slovaquie cette fois et sur le score de 5-3 dans une partie tendue jusqu'à la fin. Au classement, la Suisse est en tête avec 12 points devant le Canada, 9 points, le Danemark et l'Allemagne 6 points. Mais elle compte un match de plus que ces trois équipes, suivent dès la 5e place la France, la Slovaquie, l'Italie et le Kazakhstan.
En basket, Vevey n'est pas encore officiellement en SB League.
Le club de la Riviera a certes remporté le titre en Ligue B masculine et donc sportivement validé sa promotion, mais ce n'est pas le seul point qu'il faut remplir sur le plan financier et organisationnel. Swiss Basketball doit encore se prononcer. Un dossier a d'ores et déjà été transmis par le VRB pour qui le spectre de 2020 qui avait amené à une relégation administrative en Première Ligue est encore bien présent. Mais en cas de promotion confirmée, on ne compte pas faire de folie du côté des Galeries du Rivage. En termes de budget, peu de changements sont prévus. Est-ce vraiment réaliste pour évoluer en SB League? La réponse du président du VRB, Nathan Zana.
Pour moi, oui, c'est possible. Alors c'est clair qu'il faudra qu'on étudie bien la question par rapport aux Américains. Moi, je pense personnellement qu'il faudra vraiment qu'on essaye de voir un changement dans ces aspects-là. On voit Neuchâtel cette année qui pratiquement joue avec deux Américains, donc c'est possible. Je suis pour qu'on aille dans cette direction-là. Je suis un des présidents qui pense qu'aujourd'hui, il faut jouer avec deux Américains et pas quatre. C'est mon avis personnel. Hein. Je répète, hein, ce n'est pas l'avis de mon comité ni l'avis de mes coachs, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les baskets suisses ont besoin de laisser des places aux jeunes Suisses et ont besoin de les former.
Si on se projette un petit peu, Nathan Zana, en imaginant que le VRB, l'année prochaine, la saison prochaine évolue en Liga, quelles seraient les ambitions du VRB?
Alors si on joue en Liga l'année prochaine, et j'espère que ça va être le cas, on aimerait vraiment être un club exemple, déjà au niveau de la formation, continuer notre travail qu'on a fait cette année. Et ça, c'est le plus important. Et puis après, si on peut être dans le milieu de tableau, essayons de titiller hein, les quatre grands clubs. Hein. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est mais bien sûr Fribourg. Hein. Après, il y a Massagne, Neuchâtel et puis Genève. Hein. Si on peut les titiller un peu, ça serait bien. Voilà, mais c'est ça le but du club. C'est surtout former les jeunes à travers de l'équipe première et essayer de trouver une place dans le milieu de tableau.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. En cas de promotion en SB League du Vevey Riviera Basket, l'effectif actuel ne devrait que peu changer. Seul un joueur étranger pourrait venir compléter l'équipe.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.